Kraut, Seija Stojka, Charles Baudelaire, Claire Audouy, Eugène Guillevic, Gaston Bachelard, Gertrude Stein, Kervitch, Raymond DeVos, Vinciane Desprez et Yanis Ritsos. Vous aurez sans doute reconnu les musiques de Diana Krall, Grand Corps Malade, Gelsonic, Lai Yel, Lerita Mitsuko, P.G. Harway, Sylvia Perez-Cruz, Susanna Baca, Thomas Fersen, Anders Gayak et Yom. À très bientôt dans l'émission Un coin quelque part sur la radio Cause Commune 93.1.
Cause Commune à Paris, 93.1 en FM, sur le bloc 9A du DAB+, et partout ailleurs, causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune.
Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Nous vous donnons rendez-vous aujourd'hui au Café Libre pour discuter des actualités autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme, l'épisode 33, pardon, à cœur vaillant, la voix est libre. L'épisode du jour, range tes affaires dans la Pirate Box. Et en fin d'émission, une nouvelle pituite de Luc, à vous de jouer. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 29 avril 2025, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. J'en profite d'ailleurs pour saluer celles et ceux qui nous écoutent peut-être en rediffusion sur Radio Cigaloun, ou les mardis à 21h, ou sur la radio libre en Périgord les lundis à 14h. À la réalisation de l'émission, Julie Chaumard. Salut Julie.
Bonjour.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par un nouvel épisode d'À cœur vaillant, la voix est libre de Laurent et Laurette Costi. Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisateurs et utilisatrices pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général. Laurent Costi est administrateur de l'April et fait cette chronique avec sa fille Laurette. L'épisode du jour, range tes affaires dans la Pirate Box.
Allô Laurette, puisqu'on est là peinard à faire notre chronique à distance pour cause de machines à téléporter pas encore inventées, franchement, tant qu'à choisir entre IA et téléportation, je prendrai la téléportation, il faut que je te raconte.
Bah j'ai pas le choix, je vais écouter avec une attention appuyée et sous la surveillance d'une webcam, heureusement sous Big Blue Button. Vas-y, raconte-moi ta plongée dans le passé d'Internet pour exhumer le vieux projet Pirate Box.
Mais t'es pas Laurette ?
Non, je suis Lison.
Oh bah désolé de vous avoir dérangé, je me suis trompé de numéro. Allô Laurette ? Puisqu'on est là peinard à être réduit à faire notre chronique à distance pour cause de machines à téléporter pas encore inventées, franchement, tant qu'à choisir entre IA et téléportation, je prendrai la téléportation, il faut que je te raconte.
Bah j'ai pas le choix, je vais écouter avec une attention appuyée et sous la surveillance d'une webcam, heureusement sous Big Blue Button. Vas-y, raconte-moi ta plongée dans le passé d'Internet pour exhumer le vieux projet Pirate Box.
Merci, je n'avais pas encore d'idée de sujet, mais tu viens de m'en donner un. Parlons des Pirate Box.
À ne pas confondre avec les Corsair Box qui étaient au service du roi, comme Jean Bart à Dunkerque. On en profite pour saluer les Dunkerquois et les Dunkerquoises, car c'est assez rare qu'on le fasse dans cette chronique, je pense.
Bonjour les Dunkerquois et les Dunkerquoises, vous allez être particulièrement heureux et heureuses d'apprendre pourquoi je me suis penchée sur ces objets particuliers qui ont marqué une certaine période d'Internet.
Oh, Père Castor, moi aussi je veux connaître l'histoire des Pirate Box. Raconte-moi tout ça avec moult détails et plein de mots techniques que je pourrais expliquer avec grand joie à nos poditeurs et poditrices. Et d'ailleurs, je vais tout de suite commencer avec le mot Pirate Box. Pirate, de l'anglais pirate, et box qui veut dire...
Sport de combat avec de gros gants rouges pour pas qu'on voit le sang qui a coulé dessus depuis le nez de l'adversaire.
Presque. Non, ça veut dire boîte. Boîte pirate, donc. Et pourquoi donc voulais-tu faire une boîte pirate? Et surtout, c'est quoi concrètement? Un coffre avec plein de pièces d'or à l'intérieur?
Commençons par le commencement et partons donc du besoin. Comme l'asso dans laquelle je travaille va organiser une chouette manip début juillet autour de Saint-Brieuc, en passant bonjour aux Dunkerquois et Dunkerquoises qui habitent à Saint-Brieuc, manip avec plein de personnes qui vont venir de toute la France, je me suis souvenu d'un projet que j'avais croisé dans mes pérégrinations exploratoires, curatoires et sérendipitaires du web.
Tu faisais de la veille, quoi. Et laisse-moi deviner, t'as pensé à une pirate box, du coup?
Tu gagnes un cudo à faire valoir sur la plateforme Strava. Mais il est temps d'expliquer ce qu'est une pirate box. Je pourrais le faire très bien, sans filet, mais je me dis que c'est l'occasion de valoriser cet incroyable commun numérique qu'est Wikipédia.
Pas de doute. Encore un super travail, super difficile pour Super Laurette. Une pirate box est un dispositif électronique souvent composé d'un routeur et d'un dispositif de stockage d'informations, créant un réseau sans fil qui permet aux utilisateurs qui y sont connectés d'échanger des fichiers anonymement et de manière locale. Par définition, ce dispositif, qui est souvent portable, est déconnecté d'Internet.
Je poursuis le copier-coller raconté parce que c'est toujours pénible les trop longs monologues. Les pirate box sont à l'origine destinés à échanger librement des données libres du domaine public ou sous licence libre. Les logiciels utilisés pour la mise en place d'une pirate box sont majoritairement open source, en source ouverte, voire libre.
Mais là, malgré la mobilisation de toute ma matière grise, je vois pas le rapport avec le terme pirate utilisé et les usages tout à fait légitimes qui sont exposés ici.
Sur les pages dédiées à la pirate box de David Dartz, la personne à l'initiative du projet en 2011, on peut traduire un truc du genre « inspiré des radios pirates et du mouvement autour de la culture libre ».
Ah, tu me rassures, j'ai cru que c'était un projet pour faciliter le partage d'œuvres sous copyright au nez et à la barbe des autorités de contrôle et de coercition.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu 2-3 fichiers de ce type-là qui ont été échangés par inadvertance volontaire à l'insu du plein gré des supports de stockage. Mais c'était aussi de bonne guerre face à des majors qui étaient prêts à tout pour coincer tous ces méchants pirates qui décidément ne respectent rien, même pas les revenus indécents des actionnaires. Je voulais dire le laborieux travail des artistes.
Oui, et donc te voilà motivé pour remonter une pirate box, pour collecter des photos de la manifestation, donner accès à l'affiche ou au livret du participant.
C'est à peu près ça l'idée, effectivement. Donc, bim, direction les tutos qui ne doivent pas manquer sur la toile. Avec une contrainte cependant que je m'étais imposée, acheter un minimum de matériel parce que bon, la planète, elle commence à en avoir ras la casquette qu'on la tonde toujours plus profond. J'étais en plus en capacité de trouver une armoire de 2 ou 3 PC inutilisés depuis des mois et qui n'attendaient plus que la technique du loup concentré recroquevillé.
Technique qui consiste, on le rappelle, à supprimer le système d'exploitation originel, Windows pour ne pas le citer, qui, à force de mises à jour plus gourmandes en ressources les unes que les autres, a rendu le PC obsolète pour un usage quotidien. Une bonne distribution GNU Linux a très souvent comme résultat une deuxième jeunesse et un libriste détendu.
Zou, pouf pouf, donc, tutoriel, tenez-vous bien, me voilà. Commençons par exemple par le site piratebox.cc. Tiens, bizarre, vraiment beaucoup de liens sont morts et les contributions peuvent remonter à très loin en fonction des sites. Mais quel est donc ce mystère, me dis-je alors en découvrant cela?
Pour piratebox.cc, ça s'arrête en 2020. The website downloads and everything else will continue running in 2020, but will be shut off at the end of 2020. En gros, on continue en 2020, mais après ça s'arrête. Bien sûr, comme toujours dans l'univers du libre, on découvre des fourchettes, fork en English, cette possibilité intrinsèque.
Comme l'Orient Express passé aux sèche-cheveux.
Des 4 libertés du logiciel libre, qui permet de reprendre un projet existant et de le faire aller dans le sens qu'on veut, offrant de nouvelles perspectives aussi aux utilisateurs et aux utilisatrices.
Carrément, et en cherchant, on peut décliner de nombreux projets qui s'appuient sur cette logique de la pirate box, et qui, avec un autre nom, permet d'enlever l'ambiguïté liée au terme pirate, terme qui peut poser souci aux plus pédagogues.
Oui, une foultitude de termes existent, comme Sharebox, Librarybox, Freedombox, Bibliobox, SVTuxbox, Cobox, Biblebox, Ludobox, Moodlebox par exemple. Mais pour la grande majorité de ces projets, les contributions et les développements sont très anciens et tout semble figé. Très vite après 2012, les contributions s'arrêtent. Mais why, pourquoi donc ces sympathiques projets se sont-ils arrêtés, dis-moi ?
Figure-toi que c'est exactement la question que je me suis posée, mais en plus coloré. C'était une question du style « Mais why, pourquoi donc ces sympathiques projets colorés se sont-ils arrêtés ?»
C'est pas dû au fait que, désormais, la couverture réseau est beaucoup plus efficace qu'il y a 10 ans. Finalement, une des fonctions de cette époque, c'était de créer un réseau local qui n'était pas couvert en 3G, 4G ou réseau de l'époque.
Oui, je pense que ça peut expliquer en partie ce constat d'abandon des projets de box et dérivés. Finalement, il n'y a plus guère que dans le TGV où ton voisin de siège, excédé par la coupure ou le ralentissement de connexion pendant 30 secondes, expire bruyamment en pestant contre ce monde qui décidément part en quenouille et que le débit internet c'était mieux avant.
Mais et comment tu vas faire alors pour la chouette manifestation de cet été ? Tu vas abandonner aux grandes dames des trois utilisateurs et utilisatrices qui trouvaient ça badass fun ?
Je me suis dit à un moment donné que je pourrais emmener ma brique internet que j'ai commandée il y a quelques années chez Neutrinet. Il y a cette fonction de hotspot local déconnecté. D'ailleurs, j'ai le sentiment que les énergies qui travaillaient à développer des pirate box se sont réorientées vers des systèmes d'auto-hébergement comme YunoHost ou la Freedom Box. Mais sur quel site finalement mettre ma brique avec une portée autour de 300 mètres alors que nous serons répartis sur 4 villes différentes distantes de plusieurs kilomètres ?
Si tu rachètes 2 briques internet chez Neutrinet, ils pourraient t'en offrir une troisième, non ?
Ouais, ils vont surtout me dire que l'excès de consommation de matériel informatique nuit à la planète et ils auront raison. Non, la voie qui me semble la plus simple, la plus réaliste après réflexion, c'est finalement d'utiliser Nextcloud avec un répertoire ouvert. Une charte devra être mise en place et communiquée aux participants et participantes, mais ça devrait le faire.
Faudra aussi surveiller sans doute la capacité de stockage au fil de la manif. Mais cette option, outre le fait que ce sera accessible à partir des 4 sites, a aussi l'avantage de pas nécessiter l'achat de nouveaux matériels, ouais.
Oui, et ce type de solution explique aussi pourquoi les pirate box et projets dérivés n'ont plus l'engouement des débuts. Un bon Nextcloud bien paramétré, par exemple installé sur un serveur chez soi ou chez un hébergeur de confiance, sous réserve des sécurisations recommandées, offre un service presque similaire à ce que proposait une pirate box. Je dis presque, car l'anonymat était quand même beaucoup plus compliqué à lever quand on utilisait une pirate box. Et c'est aussi pour cette capacité à s'échanger des œuvres protégées qu'elles étaient utilisées.
Sur Internet, il y aura des logs, et donc des traces laissées que la pirate box n'avait pas. Mais c'est un compromis acceptable, sans doute. Bon, tu me feras un bilan d'usage de Nextcloud cet été après la manif, mais là, je vais faire une box son pour mettre le dawa dans les soirées. La bise, mon papartage.
La bise, ma biopuce audio.
C'était la chronique à cœur veillant, la voix est libre de Laurent et Laurette Costi. Nous allons à présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous vous donnons rendez-vous au Café Libre pour discuter des actualités autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Avant cela, nous allons écouter Oh My My par Two Bullets for the Devil. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Apart, got it out the 25th of November, when all is lost. thing to say is this. The only thing to say is this. And I say it, oh my, oh my. Nothing more is there to say than oh my, oh my. And all I say is oh my, oh my.
Nous venons d'écouter Oh My My par Two Bullets for the Devil, disponible sous licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC by SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer à notre sujet suivant. Bienvenue au Café Libre où nous discutons des actualités autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Avec moi autour de la cape, de la table, une équipe de choc. Alors dans l'ordre écharpe. Tu préfères qu'on t'appelle Manu ou écharpe?
Ouais, les deux ça marche bien.
Ok, bon, j'ai l'habitude de t'appeler écharpe, alors je vais t'appeler écharpe. Inestimable bénévole de l'April et entre autres choses maître d'œuvre de l'agenda du libre et de la revue de presse hebdomadaire de l'April. À ma droite maintenant, Benjamin Bellamy. Alors, tu es notamment papa de Castopod et animateur de Rien de Grave Patron, un podcast sur le sujet du Règlement Général de Protection des Données.
Tout à fait, mais pas que.
Mais pas que, notamment. Et enfin, en face de moi, Florence Chabanois. Entre autres casquettes, tu portes celle de présidente de l'association de la Place des Grenouilles.
Bonjour tout le monde.
N'hésitez pas à participer à notre conversation 09 72 51 55 46. Ou sur le sein web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sur la page consacrée à l'émission libreavoue.org/245. Alors nous avons un programme bien chargé aujourd'hui, et on peut se le dire tout de suite, bien marqué par le contexte américain. Enfin, je pense qu'il est difficile d'y échapper depuis quelques semaines. Alors sans plus attendre, je vous propose de nous plonger dans le premier sujet. Alors un premier sujet sur lequel l'April a pu prendre position très récemment, et qui est en lien également avec l'actualité américaine, donc le directeur général de la recherche et de l'innovation du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche a adressé mardi 15 avril 2025 un courrier à ce qu'on appelle les ADAC, les administrateurs et administratrices de données, d'algorithmes et de codes sources, afin qu'il et elle dressent un état des lieux des risques de perte ou d'accès aux données des logiciels basés aux États-Unis dans le but d'élaborer des solutions nationales. L'occasion pour l'April, dans un communiqué, de rappeler une de ses propositions, qui est la création et le maintien par l'État, par les pouvoirs publics, d'une forge publique où seront partagés les codes développés par l'administration. Puis je rappelle qu'en France, les codes développés par les administrations doivent l'être publiés sous licence libre. Donc ça veut dire qu'il s'agit de logiciels libres. Une réaction, alors là on va peut-être se concentrer sur la partie forge et l'importance. Est-ce que quelqu'un se sent en mesure de rappeler ce qu'une forge? Et parce qu'après on va parler du contexte géopolitique et on pourra se pencher sur ce sujet. Qui se lance pour l'explication de ce qu'est une forge?
Je peux.
Vas-y, une Florence.
Du coup, d'un point de vue vulgarisé, c'est un endroit, on peut dire un entrepôt où on met le code source. Je sais pas, c'est déjà trop technique là ou ça va?
Alors moi, j'ai mes biais parce que c'est vrai que c'est des langues. Ça me paraît accessible.
On pourrait presque parler du magasin dans le village avec la forge où on met l'endroit où on fabrique des choses.
Oui, complètement. Et qui permet du coup, justement avec la forge, c'est des outils qui permettent de produire des nouveaux outils, on va dire, et qui du coup gardent tout l'historique, l'historique des recettes de ces outils pour pouvoir assurer la continuité de tout ça. Et du coup, d'un point de vue public, service public, pourquoi c'est important ? C'est ce qui assure la pérennité de tous nos logiciels, en fait, et du coup, la continuité du service public.
Voilà, ce que tu rappelles, la continuité du service public, c'est un des principes fondateurs, enfin, il y en a plein des principes structurants de ce qu'est un service public, et ces notions de continuité, de continuité d'accès au service public et continuité de fonctionnement est un principe très important. Ouais. Tu fais bien de le rappeler.
On peut notamment parler de Adulact. L'Adulact, c'est un regroupement qui essaye d'aider les administrations, les collectivités territoriales, et ils proposent une forge. Donc ils essayent déjà de se placer un petit peu sur ce type de mise en place, ce type de besoin, mais ce n'est pas forcément reconnu par l'État et par les administrations de manière globale. C'est vraiment un outil à côté qui a des financements et qui fonctionne pas trop mal, hein, il me semble, depuis des années déjà.
Alors, peut-être qu'on peut dire le mot interdit, parce qu'on tourne autour du pot depuis tout à l'heure, mais ce qui est visé très clairement ici, c'est GitHub. GitHub qui est l'endroit communautaire où on peut déposer n'importe quel code source et qui a été racheté par Microsoft il n'y a pas si longtemps. Et ça pose problème aujourd'hui, puisque ça veut dire que une énorme partie des logiciels libres ont leur code source chez Microsoft.
Oui, parce que c'est la forge la plus importante de toutes, plus historiquement la plus grosse et la plus ancienne, qui a été rachetée pour quelques milliards quand même à l'époque.
Mais à la limite, peu importe le montant, le problème n'est pas là. Il l'aurait payé 3 sous, ça ne changerait pas le problème qu'aujourd'hui,
Oui, mais ça montrait l'importance peut-être.
Ça montre l'importance, oui, tout à fait.
Et effectivement. Ça. Alors, il y a une forge libre quand même en concurrence, on va dire, qui est là souvent recommandée et mise en avant.
Oui, il y en a plein.
Ouais, il y en a une qui sort du lot peut-être. Oui, il y en a une.
GitLab, on le voilà, parce que.
Il y a GitLab, mais il y a aussi Codeberg avec Forge Joe. C'est comme ça que ça s'appelle. En fait, il y en a quand même plusieurs. Et puis GitLab étant libre, il y a plusieurs instances de GitLab. Il y a l'instance principale de GitLab qui vend ses services moyennant finance. Et ce qui pose un problème d'ailleurs, c'est que GitHub a été payant à une époque, et en tout cas a été payant pour les logiciels qui n'étaient pas sous licence libre. Mmh. Aujourd'hui, GitHub est complètement gratuit, ce qui fait que... on y va tous par flemme.
Les particuliers, tu veux dire ? Parce que c'est payant quand même pour les entreprises. Et
Plus ou moins.
Moins que plus maintenant. Hein.
Donc certains services sont payants, mais de base, ils essayent d'accueillir tout le monde. C'est toujours le pied dans la porte. C'est la stratégie du pied dans la porte.
Que j'ai compris,
du vendeur de crack, moi je dis.
Une difficulté GitHub, et après je vais peut-être vous proposer de mettre un ordre, parce que je vois deux enjeux, mais une difficulté GitHub, de ce que j'ai compris, notamment pour les développeurs et les développeuses, c'est que ça fait presque office aussi d'une forme de réseau social de développement, où on échange les pratiques, on échange plein de choses, pas seulement du code à proprement parler, ça c'est toutes les couches de service, on pourra se repencher dessus dedans, ce qui fait qu'il est aussi très difficile de ne pas passer, par cette plateforme, et ce qui durcit encore plus les effets de dépendance, et ce qui rend peut-être d'autant plus pertinent la nécessité de maintenir des forges qui soient en dehors de ces systèmes-là. Benjamin.
Ouais, pour illustrer ton propos, typiquement, moi je ne suis pas un grand adorateur de Microsoft. Pour le développement de Castopod, donc notre plateforme d'hébergement de podcasts qui est libre, on a décidé d'avoir notre propre instance GitLab auto-hébergée parce qu'on voulait être souverain sur notre code source. Sauf que quand on a commencé à chercher des financements, des choses à droite, à gauche, et en particulier Open Collective, qui est une plateforme de financement de logiciels libres, ils demandent un certain nombre d'étoiles sur GitHub. Et si vous n'avez pas d'étoiles sur GitHub, et donc si vous n'êtes pas sur GitHub, vous n'existez pas. C'est un peu le biais de la plateforme où, comme tout le monde y est, c'est là qu'il faut aller, quoi. Et y a un espèce de cercle vicieux à se dire, on va pas s'embêter, on sait que tout le monde est là. C'est un peu comme on était jadis tous sur Facebook parce que c'est là qu'il y avait tout le monde. C'est un peu comme WhatsApp. C'est toutes ces plateformes-là privatives, pourquoi ça marche ? C'est parce que c'est gratuit, et parce que c'est facile et parce que c'est là que tout le monde y est.
C'est aussi que GitHub, avant le rachat de Microsoft, enfin, c'était un très très bon move hein, de la part de Microsoft, c'est que on poussait les entreprises et les particuliers à y aller, à justement partager le code source. Et une fois qu'on a tout poussé dessus, on se retrouve à se dire ah, bah du coup on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Et du coup il y a des va-et-vient justement entre GitLab et GitHub d'un point de vue entreprise, notamment aussi par rapport aux fuites de données. Il y a tout un écosystème sur GitHub. Maintenant il y a un éditeur de code. Enfin il y a plein de hooks, de choses qui font que ça facilite énormément le travail de développement. Et GitLab, ça marche en local et tout, mais du coup, c'est un surcoût quand même important, de la gratuité ou pas, pour pouvoir maintenir ça. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le code source, c'est vraiment le nerf de la guerre d'une entreprise d'un point de vue logiciel, dans le sens où c'est vraiment la recette de tous nos plats, quoi. Et du coup, s'il n'y a pas de garantie d'intégrité de ces données-là, bah, c'est un risque. Donc, on doit vraiment déployer des moyens pour garantir bah, que tout est bien fait. Du coup, ça nécessite plus de ressources en termes de maintenance, d'avoir du GitLab. Alors que GitHub, c'est tout clé en main, quoi.
On peut noter le petit paradoxe. GitHub héberge une très grande majorité des logiciels libres aujourd'hui, vraisemblablement de ce que je sais, de ce que je vois. Mais GitHub n'est pas un logiciel libre, ce qui est toujours amusant à rappeler. À l'April, on s'en était offusqué à une époque. On avait beaucoup, on avait un peu bataillé sur le sujet. Et puis, effectivement, il y a pas mal d'associations qui essayent de se battre contre ça. Donc, il y a GitLab qui a des instances un peu partout. Il y a Framasoft qui était connu pour en héberger une grosse en France. Et puis, l'April héberge, alors c'est des Gitty. Encore un autre outil de moindre importance en termes de fonctionnalité, on va dire, mais plus facile à maintenir, peut-être un peu moins coûteux aussi.
Si vous pourrez me corriger ou me compléter, j'ai l'impression que peut-être pour les personnes qui n'ont pas forcément le recul pour se dire quelle est la différence, qu'est-ce que ça change, que ce soit libre ou pas. Un des problèmes de ce que je comprends, c'est qu'il y a il y a la forge, certes, où on stocke les codes, mais il y a tous les outils autour, comme dans une vraie forge, pour travailler, en fait. Mmh. Et c'est vrai qu'ils sont mis à disposition. Et ces outils-là, pour le coup, ne sont pas forcément libres. Et ça va être difficile si on veut reprendre son code pour aller faire autre chose. On va perdre, en fait, certains outils qui avaient été développés pour ça. Là où je peux imaginer que des outils libres sont plus facilement, parce que voilà, l'interopérabilité, la capacité à utiliser les codes ou les services sur d'autres plateformes sera peut-être plus simple. Après, c'est peut-être un peu naïf comme vision, mais il me semble que c'est un des enjeux.
Ouais, vas-y, Benjamin. Je pense que une bonne métaphore, hein, c'est comme quand on veut changer de mail. Hein. Si on a touché Gmail et puis que on décide d'aller ailleurs, ça va être compliqué. Ben, c'est pareil. Si on a tout son code source sur GitHub et qu'on veut le changer, ben, on va perdre ses étoiles, typiquement. Et puis on va perdre tous les gens qui suivent le repository. On va perdre des trucs de configuration qui sont un peu touchy. Donc, évidemment, son code source, on va pouvoir le récupérer puisque tout le monde peut le récupérer. Mais au-delà, en fait, il y a tout l'environnement et l'écosystème. Ça va être compliqué. Si on a du CI/CD, ça va être compliqué.
CI/CD, pardon.
Alors, ça, c'est le système de build, on va dire, de construction qui permet de déployer notamment. Hein.
D'accord. Ouais. Alors, on parle beaucoup, et en fait, c'est intéressant de faire un plaidoyer pour les forges libres et contre GitHub pour toutes les problèmes d'adhérence que ça avait et qui sont vrais pour tout le monde, en fait. Mais comme on disait, c'est pour ça que je veux revenir sur le côté forge publique et la question des codes développés par l'administration, qui sont des documents administratifs communicables, c'est-à-dire que c'est financé par de l'argent public, ces codes doivent rester librement accessibles et librement réutilisables par l'ensemble de la population, par qui veut en fait. Donc il y a tout cet enjeu aussi de maintenir un accès simple, continu à ces codes en tant que service public. Tu parlais de l'Adulacte, effectivement, il propose le comptoir du libre. Alors, je ne sais pas si c'est une forge, le comptoir du libre. Peut-être que je confonds deux choses.
Je ne sais pas, mais l'Adulacte a une forge.
Ils ont une forge. Et l'Adulacte fait un très bon boulot. C'est un acteur très important. Alors, ils sont très concentrés pour la promotion du logiciel libre et de la mutualisation auprès des collectivités avant tout. Et le problème, et c'est ce qu'on cherche aussi à dire dans notre communiqué à l'April, c'est que, en fait, quel que soit l'acteur, il n'y a pas de jugement moral, que ce soit GitHub ou quelqu'un d'autre. Alors, même s'il y a des problèmes en plus quand c'est GitHub, la difficulté, c'est quand on dépend d'une personne extérieure, d'une personne, qu'elle soit une association et quelles que soient ses intentions, elle peut changer de politique interne, elle peut mettre la clé sous la porte pour une raison ou une autre. Et en fait, c'est là où on va perdre ce côté que tu rappelais, Florence, à juste titre, de continuité de service public. On a une dépendance. Et en fait, sur là-dessus, il ne faut pas de dépendance. Il faut garantir dans le temps cette continuité. Surtout qu'on peut naïvement aussi se dire que, je pense que sans doute que l'État a les capacités techniques de connaissances et financières pour pouvoir héberger sa propre forge, quand même.
Alors, l'État héberge plein de forges.
En plus, c'est ça qui est rigolo.
Il y en a des dizaines et probablement des centaines peut-être même plus parce que c'est tentaculaire. Moi, j'ai travaillé dans des administrations. Il y avait des forges, plusieurs, dans différents environnements, des environnements sécurisés, des environnements non sécurisés. En général, du GitLab, qui est plutôt apprécié et connu, bien utilisé par les administrateurs système, donc ceux qui mettent en place. Et bah, ils ont du mal à centraliser autour d'une forge. Et je crois que la DINUM, la direction du numérique, avait essayé d'aller dans ce sens-là. Ils avaient fait des propositions pour essayer d'organiser un petit peu, pour essayer de proposer un peu de centralisation. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Et essayer de, bah, d'éviter de redéployer à chaque fois des outils qui vont parfois être mis dans un coin et plus maintenus. Parce que ça fait aussi partie des problèmes, c'est qu'il faut maintenir les forges. Il faut des gens qui ont une expertise et qui vont les faire évoluer, les corriger et garantir, par exemple, la sécurité des forges.
Ah, ouais, ça demande une volonté politique de le faire.
Ouais, et puis ça demande du temps et de l'argent. Hein. Maintenir un GitLab, j'en sais quelque chose, il faut s'en occuper toutes les semaines. Hein. C'est comme un petit animal.
C'est un choix politique que de maintenir un temps dédié d'agents ouais. publics là-dessus. Et c'est un choix qu'il faut faire, visiblement, en vue des enjeux et qui n'est pas non plus complètement déraisonnable.
Mais on voit qu'il y a aussi quand même une grosse dimension marketing parce que le fait qu'il y ait plein de forges, ben ça facilite pas quand on cherche quelque chose, on sait pas où on va le trouver. Pourquoi aussi est-ce qu'aujourd'hui tout le monde va sur GitHub, hein, c'est parce que ben on sait que c'est là qu'on va aller chercher, c'est là qu'on va trouver. C'est de la même manière que ben, s'il y a une vidéo, elle est sur YouTube. C'est triste, mais c'est ce qui fait que on centralise. Parce que ça facilite le boulot de tout le monde à faire après.
On va saluer. Alors, une partie des agents de la DINUM, ils ont fait un travail important. Alors, ce n'est pas au niveau d'avoir une forge, mais il y a un catalogue en fait, de où trouver, qui référence où trouver les différents codes développés. C'est là qu'on peut se rendre compte qu'une grande quantité de codes des administrations sont chez GitHub. Mais il y a ce travail un peu de recensement. Par contre, effectivement, on considère qu'il faut avancer. Je vais conclure sur ce point, sauf s'il y avait d'autres... Si vous aviez d'autres...
Moi, j'appuie juste Emmanuel, enfin Manu, pardon, ou Écharpe, bref. que l'INRIA, effectivement, a mis en place un archivage via Software Heritage que je ne connaissais pas, du coup. Mais la problématique est effectivement celle que tu as évoquée dans le sens où ça préserve le code, ça le stocke, mais il n'y a pas la continuité des services. Et c'est vraiment là tout l'enjeu. Et comme tu disais, Benjamin, aujourd'hui, chaque organisation endosse ce coût quand on est sur GitLab. Mais qui est américain aussi ou pas? Parce que du coup, là, j'ai quand même un doute sur le...
Bonne question, faudrait qu'on vérifie.
Franchement, je suis pas sûre que ce soit si...
Okay, c'est international, ça. Après.
C'est aussi que toutes les alternatives sont mortes.
Si c'est du logiciel, c'est moins gênant.
Avant, il y avait du Bitbucket, SourceForge, je crois, existait encore, mais ça se trouve, tout ce que je dis est aussi américain. C'est là où avant, c'était vraiment très à la mode et c'était des gens qui avaient une vision à très long terme de pérennité, qui encourageaient les entreprises à aller sur GitHub. Et là, on se retrouve un peu pris à son propre piège en se disant, ah bah, ça marche tant que c'est pas un autre système, en l'occurrence Microsoft, qui risque de retourner ça contre nous au fil des années, quoi, suite à un, entre guillemets, bête rachat. Mais effectivement, le fait que ça fasse référence aujourd'hui est très, très problématique. Enfin, en tout cas, est un très, très, très gros frein au changement, quoi.
Tu as mentionné Software Heritage, qui est effectivement un projet absolument génial de conservation de l'ensemble des codes, libres ou pas, mais de l'ensemble de la production informatique depuis que l'informatique existe. Donc c'est une sorte de bibliothèque d'Alexandrie du code, et c'est un projet génial. On les avait reçus en 2022, donc si vous voulez retrouver cette émission, on la partagera, c'est l'émission 134, libreavoue.org/134. Et puis juste pour mentionner, puisqu'on parlait du ministère de la Recherche et de l'éducation supérieure de la recherche, on peut aussi nommer, alors c'est plus le ministère de l'éducation, la Forge des communs numériques et éducatifs, par exemple, qui est une des forges qui existe et là qui est à destination de la communauté enseignante pour partager leurs ressources éducatives libres et notamment des logiciels. Donc ça, par exemple, c'est un très bel exemple de ce qu'il faut faire, mais en fait, il faudrait passer à une échelle supérieure. Et on attend, parce que donc, je parlais, il y a une lettre qui a déclenché ça, une lettre du directeur général d'innovation qui demande un état des lieux. Donc voilà, on appelle également à ce que cet état des lieux, cet audit, soit communiqué. Et s'il ne l'est pas de lui-même, on fera une demande CADA, c'est-à-dire une demande d'accès à un document administratif pour en obtenir, faire la lumière, ça aidera à mieux avancer. Et je vous propose de passer au sujet suivant. Alors, comme je le disais en introduction, puis en fait il y avait un lien avec notre premier sujet, c'est un sujet qui est difficile d'y échapper, hein, comme l'IA par exemple, c'est le contexte géopolitique avec la présidence de Trump aux États-Unis, entre sa guerre commerciale et son détricotage en règle des contre-pouvoirs aux États-Unis, qui dans un monde globalisé, forcément, c'est un impact global, et qui impacte évidemment aussi les sujets qui nous intéressent, les sujets numériques. Alors c'est vraiment un gros plat de résistance sur ce café libre. Il y a plein de plus petits plats à l'intérieur, donc peut-être qu'ils se recroiseront. Voilà, on va pas forcément faire actu par actu à l'intérieur. On nommera les plus importantes et on essaiera de donner quand même que ce plat reste aussi cohérent et digeste que possible. Mais c'est vrai que c'est foisonnant. Mmh. C'est foisonnant et c'est difficile à suivre parce que ça va très vite. Et je vous propose de commencer par une idée, voilà, qui est en fait ancienne et qui est revenue avec guerre commerciale. L'idée de guerre commerciale, c'est ce qu'on appelle la taxe GAFAM. Alors, je vais remettre juste un peu de contexte. Là, je lis les choses dans le désordre, j'en suis désolé. Donc, pour remettre un peu de contexte, le calcul des droits de douane de Trump, qui lui permet de justifier des taxes absolument déraisonnables à l'ensemble, à beaucoup d'États du monde, c'est basé sur un calcul absurde, basé sur le rapport entre importation et exportation, ce qu'on appelle la balance commerciale. Et dans son calcul, il s'était focalisé sur la balance commerciale des produits physiques. Et or, s'il y a un domaine où la balance commerciale entre États-Unis et Union européenne est largement en faveur des États-Unis, c'est le service numérique. Et c'est dans Next qui le résume ainsi. En 2023, l'Europe exportait par exemple 503 milliards d'euros de marchandises vers les États-Unis et emportait 347 milliards d'euros. Déjà, on voit quand même les ordres de grandeur. Or, la situation s'inverse quand on regarde les services. L'Union européenne exportait l'équivalent de 319 milliards d'euros vers les États-Unis, alors que ces derniers généraient 427 milliards d'euros à partir du marché européen. En matière de services, les États-Unis bénéficient donc d'un excédent commercial significatif vis-à-vis de l'Europe. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'est revenue sur la table cette idée d'une taxe GAFAM pour taxer les flux financiers des géants du numérique. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà? Cette idée de taxe GAFAM, elle est ancienne, hein, elle réapparaît là, mais elle est ancienne. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette idée de taxe et puis de... globalement de cette situation?
Alors, moi perso, je suis pas fan des taxes, mais si au moins on pouvait déjà appliquer les taxes existantes, parce qu'il faut rappeler, les GAFAM existent et les entreprises du numérique gigantesques existent en grande partie parce qu'elles arrivent à contourner les règles déjà en place, en passant par différents pays. Hein. L'Irlande, par exemple, c'est un des moyens les plus simples, et puis en s'arrangeant pour que tout ce qui correspond à des droits d'auteur, eh bien, ce soit démesuré dans un sens ou minimisé dans un autre, que les emplois, ils soient pas forcément répertoriés comme catalogués dans certains pays ou dans d'autres, que le marché, il soit pas indiqué comme, le marché des consommateurs soit pas indiqué comme étant là où on veut payer les taxes, mais on va les payer ailleurs. Et en bidouillant à chaque fois comme cela, les grosses entreprises arrivent à ne pas payer les taxes déjà existantes. Et c'est très problématique parce qu'on se rend compte qu'avec les années, il y a probablement des milliards et des milliards qui ont échappé à tout ce qu'on pouvait organiser. Et l'Irlande, il y a eu des problèmes, ne serait-ce que je crois que c'était des droits de taxes que l'Irlande avait décidé de ne pas faire payer aux grosses multinationales américaines pour encourager leur implantation en Irlande, ce qui a plutôt fonctionné. Et l'Europe était venue derrière, avait tapé un peu du pied et demandé à ce qu'on paye les arriérés. Comme les règles européennes normalement l'imposent, l'Irlande s'était un petit peu bataillée là-dessus, et c'était des arriérés vraiment considérables. Donc déjà, si on pouvait faire payer ça, ce serait pas mal, et ensuite la taxe GAFAM, pourquoi pas. Après tout, on est souverain, on a le droit de faire payer des taxes, si on a des bonnes règles qui s'appliquent à tout le monde, et qui ne sont pas des règles arbitraires.
Merci pour ce récapitulatif. Je te donne tout de suite la parole, Florence. Rappelez effectivement que l'idée de cette taxe GAFAM, ce serait une taxe au niveau de l'Union européenne.
En parlant d'Union européenne, quand même, les GAFAM ont régulièrement des amendes sur lesquelles ils font des recours et ils contestent, sans parler du fait que c'est des amendes assez anecdotiques au regard de leur chiffre d'affaires. Justement, on a eu Apple là qui a eu 500 millions d'euros pour clause abusive. Et Meta, c'est toujours la même raison pour laquelle ils ont des amendes encore et encore. Et je ne sais pas si ils les payent vraiment ou si un recours bloque tout. Mais là, le motif, c'était un manque de recueil du consentement sur le fait de recueillir des données personnelles et de les croiser. Donc c'est vraiment la base quand même du RGPD. du coup, je te rejoins à Emmanuel sur le fait de leur efficacité en fait sur les taxes. Néanmoins, je trouve ça quand même pas mal en vrai d'appliquer. Enfin, le fait que ça existe, ça envoie quand même un signal dans le sens où on se fait quand même malmener par en particulier le gouvernement européen. Enfin, pas que nous d'ailleurs, tout le monde se fait malmener. On a tous et toutes une épée de Damoclès et ça permettrait de au moins proposer un contre-pouvoir. Moi, je suis plutôt positive en fait sur ce sujet.
T'es plutôt pour instaurer une taxe
GAFAM. Oui, favorable, on va dire. Ouais.
Alors, moi, je rejoins ce que disait Echarpe, sur le fait qu'il faudrait commencer par résoudre cette distorsion de concurrence, parce que au-delà de est-ce qu'on est pour ou contre les taxes, peu importe, il y a une vraie distorsion de concurrence qui pose un véritable problème. Sur la taxe GAFAM en elle-même, moi, à titre personnel, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est un épouvantail qu'on agite et qu'on dit attention, attention, taxe GAFAM, taxe GAFAM. Je pense que les enjeux sont tels. Aujourd'hui, la dépendance des sociétés européennes et en particulier françaises, des multinationales aux GAFAM, elle est telle que si demain on leur imposait une taxe GAFAM, parce que c'est bien nos sociétés qui vont les payer, hein, les taxes, c'est le principe des taxes, il y aurait une telle levée de bouclier que ça avancerait pas. Donc je ne crois pas une seconde qu'on va arriver à mettre en place une taxe GAFAM. Maintenant qu'on l'agite et que ça revienne régulièrement, pourquoi pas ? Si ça peut faire réfléchir quelques DSI en se disant bah, « Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout mettre chez Outlook ou Gmail ?» Ouais, c'est une bonne chose. Et puis, d'autant que le contexte géopolitique, mais là, on n'est plus vraiment dans l'économie, hein, on est vraiment dans la politique actuelle, nous incite à être précautionneux, à se dire « Est-ce que j'ai vraiment envie que tous mes secrets de fabrication soient chez Microsoft ou chez Google ou chez Amazon ?» Mais la réflexion, en fait, à mon avis, elle va plus venir d'une crainte d'espionnage industriel parce que c'est pas de la science-fiction, c'est pas que dans les films, hein, que d'une possible taxe GAFAM, sachant qu'en France, au niveau des taxes, on est déjà correctement loti. Ça se discute, mais en tout cas, je crois pas qu'on y arrivera un jour.
Ce que je trouve intéressant dans ce que tu soulèves, alors c'est difficile à percevoir tout de suite, mais je trouve que dans certains discours, ça commence à faire surface. Pendant longtemps, on disait bon, ça pose quand même problème de tout soit chez Microsoft, etc., pour plein de raisons évidentes. Mais en même temps, c'était oui, mais les Américains, c'est nos alliés. L'enjeu, voilà, par rapport aux Chinois, ou par exemple, c'est un peu plus compliqué. Là, le fait que les États-Unis soient nos alliés, on est un peu moins sûr sur le long terme. Et je trouve que ça rend d'autant plus palpable et évident peut-être la nécessité d'un petit peu plus d'autonomie vis-à-vis des solutions américaines. Et je trouve dans la bouche de certains politiques notamment, ça commence peut-être à émerger.
Ça fait plus de 15 ans que je me bats pour qu'on arrête de mettre... la messagerie, c'est un point clé parce qu'on a tous besoin d'une messagerie à l'entreprise. Qu'on arrête de mettre nos messageries chez Google ou chez Microsoft... Et ça fait 15 ans qu'on me traite de parano et qu'on me rigole au nez et qu'on me dit « Ah bah avec ta messagerie libre ou auto-hébergée ou souveraine, c'est nul, comment tu gères ton agenda, etc. » Ben aujourd'hui, on rigole plus. Le sujet, il est plus tabou, on peut en parler et il y a une vraie prise de conscience de fond qui est en train de se faire chez tous les acteurs. Chez les politiciens et les politiciennes, oui, on peut penser à Philippe Latombe qui a toujours été très actif là-dessus, mais il était un peu tout seul, il l'est de moins en moins, et c'est un discours qui commence à passer, c'est-à-dire que les gens commencent à écouter nos explications. Et il y a vraiment un changement que moi je note depuis plusieurs mois. Je trouve ça très triste qu'il faille en arriver à l'arrivée d'un Trump au pouvoir pour que les gens nous écoutent. Au final, est-ce qu'on doit s'en réjouir ? Je ne pense pas. En tout cas, ce discours-là, il passe aujourd'hui.
Oui, je suis d'accord. C'est le seul point positif de l'histoire. C'est que la menace que les gens avaient du mal à vraiment palper par rapport... C'est aussi le fait que ça fasse référence, comme on disait pour GitHub... Personne n'y croit, en fait. On a l'impression que c'est des Cassandres dans le sens où c'est un risque, ça. Mais bon, il y a des risques partout. Et du coup, c'est plus des arbitrages entre tel risque par rapport à un autre. Et là, depuis, il y a de plus en plus de menaces, en fait. Déjà avec tout ce qui est cybersécurité, donc ça, c'est encore plus depuis la Covid, avec des risques géopolitiques. Là, on commence vraiment à avoir peur parce qu'on commence à sentir des effets. Et là, au moins, ça a l'avantage de cette situation qui est effectivement pas du tout souhaitable, fait que ça incite un peu plus au mouvement.
Je pense qu'il y avait quelqu'un qui était Cassandre avant nous, c'est De Gaulle. De Gaulle se méfiait beaucoup des Américains, pour plein de raisons, de ce qu'il avait vécu notamment. Et il s'en méfiait, alors, largement dans un côté géopolitique, hein, pas pour l'informatique et les serveurs de données, bien sûr. Et son héritier, au moins sur cette ligne-là, c'est Macron. Macron, il avait beaucoup claironné auprès de l'Europe qu'il fallait se méfier des Américains, qu'il fallait être autonome, qu'il fallait garantir un petit peu qu'on puisse fonctionner de notre côté. Et là, bizarrement, on a une sorte de néo-nazi qui arrive au pouvoir américain. Eh bien, on s'est un peu réveillé, pas suffisamment, bien sûr, hein, on en est encore loin. Les Allemands ont un petit peu changé leur ton. Ils se rendent compte qu'effectivement, peut-être que, ah oui, on a des missiles nucléaires, mais américains, donc on ne peut pas les utiliser comme on veut, on n'est vraiment pas maître chez nous des outils qu'on utilise. Eh ben, c'est complètement les arguments que nous, on utilise aussi pour le logiciel et pour les données, et qu'il faut, bah, il faut retravailler ça. Il faut retravailler aussi le fait que nos données européennes, eh bien, elles soient protégées. Il y a des clauses dans les conventions européennes qui disent qu'on ne doit pas pouvoir exporter les données des Européens sur d'autres serveurs. Ça s'appelle, en anglais, c'est le safe harbor. Je ne sais pas comment on le traduit en français. Mais c'est qu'en fait, bien, les serveurs qui hébergent, bah, par exemple, les données de santé français, doivent être hébergés en France ou en Europe, parce que maintenant, la règle est communautaire. Et malheureusement, ces clauses-là, qui étaient surveillées par les juges, ont sauté encore récemment et ont repermis aux données de santé des Français d'être hébergées en Amérique, dans le cloud Microsoft. Et il y a des allers-retours. Donc là, on est en train de se dire, mais c'est peut-être une connerie quand même d'héberger tout ça là-bas. Est-ce qu'il ne faudrait pas garantir que ce soit hébergé en Europe, même si c'est chez Azure, donc Microsoft, au moins c'est en Europe, on peut appliquer nos lois localement. Mais bon, bah non, si c'est des entreprises américaines, de toute façon, le droit américain s'appliquera. Ouais. Et surtout, bah, les données sensibles, bah, y auront accès, il n'y a aucun doute là-dessus.
Oui. Je voulais juste préciser quelque chose. Effectivement, on peut parler du RGPD, parce que c'est un des aspects importants. Juste parce que, effectivement, alors, Emmanuel Macron, je ne sais pas à quel point il a...
Oui, parce que là, je ne peux pas laisser passer ça.
Même s'il a eu un discours très critique, j'en sais rien, j'ai pas suivi.
Très souverainiste, on va dire.
D'accord. En tout cas, ça s'est pas matériellement traduit dans des décisions, voilà. Donc, par exemple, sur les sujets de la dépendance aux services numériques américains à Microsoft en tête, ça s'est pas du tout traduit.
Là, je parle plutôt du côté militaire, hein. C'est vraiment un autre niveau militairement, économiquement, sur vraiment les armées et la dépendance aux Américains. Mais moi, je remarque que c'est la même chose pour le logiciel.
D'accord.
À un autre niveau, bien sûr, hein. On n'a pas les mêmes enjeux sur les vies. Le matériel n'est pas le même, tout à fait. Mais il y a ces mêmes enjeux-là qui s'appliquent, de mon point de vue.
D'accord. Et... Si ce n'est que le ministère des Armées est très dépendant, lui aussi.
Ah oui.
Mais bon,
c'est un sujet. Bah, effectivement.
On parlait du RGPD, qui, je pense, est effectivement... Parce que dans le bras de fer géopolitique entre États-Unis et Union européenne, les grandes réglementations européennes sur les services du numérique sont vraiment, me semble, un des grands leviers ou des grands sujets de tension, et notamment la réglementation générale de la protection des données, qui est bien plus protectrice dans l'Union européenne, même si on pourrait toujours souhaiter davantage de protection qu'elle ne l'est aux États-Unis. Alors le Safe Harbor, il me semble que c'était un accord bilatéral entre Union européenne et États-Unis pour dire que le droit américain était conforme à la réglementation européenne, qui a été cassé à deux reprises d'ailleurs pour dire qu'il n'était pas finalement si protecteur que ça.
Max Schrems.
Voilà, oui. Par Max Schrems, effectivement, et son association Niob. Alors, il l'a cassé, enfin, il a agi avant l'existence de cette association. Mais je trouve, voilà, Benjamin, toi, tu suis de près les sujets RGPD. Tu fais même un podcast qui est dédié à ces questions-là. Donc, je sais que tu voulais voilà, évoquer cette grande question.
Alors, je ne les suis pas particulièrement de près, mais je pense que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, que beaucoup, beaucoup de gens en Europe se sont plaints du RGPD. Qu'on l'a très très mal expliqué, que globalement personne ne sait à quoi ça sert, comment ça marche, personne. Et que là, eh ben, on va avoir un premier cas d'usage où on va voir à quoi ça sert, c'est que ça va nous permettre de nous protéger de Donald Trump. Ce qui est déjà pas mal. Ça permet de faire plein d'autres choses. Donc après, je ne suis pas un expert du RGPD, hein, je ne suis pas avocat ou autre. C'est juste un peu ma passion. Je trouve que c'est un texte qui est vraiment chouette parce que... Bah, il remplit un objectif qui est vraiment très vertueux et très noble, hein, qui est de protéger nos données pour pas que n'importe qui puisse en faire n'importe quoi avec. Donc c'est très chouette. Et puis à l'heure du scrapping avec l'IA, je pense que ça va devenir de plus en plus important. Donc le scrapping...
Oui, le mot français, je m'échappe aussi, hein.
Comment est-ce qu'on pourrait... En fait, c'est le fait d'aller sur des sites récupérer de manière systématique des données, donc de télécharger l'intégralité du contenu d'un site. Y a pas mal d'articles qui parlent de cette pratique en ce moment parce que la plupart des entreprises qui aujourd'hui font de l'IA ont recours au scrapping pour aller chercher des données de manière légitime ou pas. Et aujourd'hui, c'est la moitié du trafic Internet qui est en fait consommé par des robots qui récupèrent des données pour pouvoir entraîner des intelligences artificielles derrière.
Oui, ça a explosé et ça met en cause même les serveurs, et notamment les serveurs de la communauté du libre, qui sont quasiment attaqués par ces outils qui sont en train d'essayer de tout regarder, de tout voir, d'aller partout, d'aller dans les coins et plusieurs fois par jour, parce qu'ils n'ont pas vraiment de limites, pas les mêmes limites que les moteurs de recherche qui traditionnellement faisaient un peu la même chose. Et là, c'est par grosse quantité et c'est très difficile de se battre contre ça. Il y a même des administrateurs systèmes qui sont obligés de mettre en place des politiques de labyrinthe pour, dès qu'ils chopent une IA ou ils pensent avoir chopé une IA, ils leur proposent des enchaînements de pages idiotes qui vont boucler les unes sur les autres pour lui faire perdre du temps et faire en sorte que le reste du site ne soit pas touché. Enfin, c'est quasiment une guerre en ce moment.
Des utilisateurs de services numériques et que vous trouvez que ça rame en ce moment, c'est sans doute de la faute des IA.
Ou en tout cas, c'est une bonne excuse. On ne va pas la rater, cette excuse-là.
Mais c'est vrai que la charge est importante, en fait. Même au-delà de la légitimité du fait de se sentir volé par rapport à ces robots. Donc, c'est pour ça que tu parles de stratégie pour tromper ces petits filous. Donc, il y a toujours eu ces problèmes-là, en termes de... Effectivement. Mais il y a aussi des fois où ce n'est pas gênant pour nous. Mais du coup, ça nous coûte, en tant que système ou organisation, pour faire en sorte que le site ne tombe pas. Donc, c'est à ça que tu faisais référence, Étienne, je pense. Et ça génère un surcoût pour tout le monde, en fait.
Par exemple, dans le domaine du podcast, il y a Podfriend, qui est un service d'écoute et de podcast que moi j'aimais beaucoup, qui était super novateur, qui est sous licence libre, open source. Et il a dû fermer son site parce que comme il référence de nombreux podcasts, il avait sa consommation de bande passante qui atteignait des sommets. Et comme c'est des robots, il ne peut même pas se dire « Ah, bah, j'ai du trafic, c'est bien ». Non, c'est du trafic qui n'a aucune valeur. C'est du trafic qui coûte de l'argent, mais qui rapporte rien. Je pense que Wikipédia aussi beaucoup de problèmes en ce moment. Alors que Wikipédia, je ne sais pas si vous le savez, mais on peut télécharger l'intégralité de la base Wikipédia. C'est complètement libre. Et donc, quand on fait de l'intelligence artificielle, c'est super pratique. C'est vraiment un outil incroyable. Sauf que s'il y a énormément de gens qui téléchargent et qui le font plusieurs fois par jour, et ça finit par... représenter des données colossales. Et donc, même indépendamment du coût écologique que ça représente, ça a un coût économique pour l'entreprise qui héberge le site.
Il faut plus de serveurs, augmenter la bande passante.
Oui, c'est perturbateur. Hein. C'est très, très perturbateur. Hein. Donc,
je crois que j'ai vu le chiffre, c'est un peu plus de 50%. On est c'est peut-être à 51 ou 52% du trafic Internet mondial et c'est de l'IA. C'est pas,
A dépassé le porno et le spam. C'est fou, ça, hein,
c'est fou.
Franchement.
Alors, on sait pas.
Tout fout le camp.
Je sais pas trop comment sont calculés ces pourcentages parce que la problématique de ces moteurs, c'est que très souvent, ils le font de manière illégitime. Alors, au mépris du droit d'auteur et du RGPD, et au mépris de ce qu'on a mentionné tout à l'heure, le robot.txt, qui est un petit fichier qu'on met sur son site pour dire qu'est-ce qu'on a le droit d'indexer ou pas, et qui aujourd'hui est... donc c'est une norme qui est très très vieille, hein, qui a au moins 20 ans, je pense, et qui est celle qu'on utilise aujourd'hui dans le cadre de l'IA.
Qu'on aimerait bien faire utiliser dans le cadre de l'IA, tu veux dire.
Et justement, parce que voilà, il y a énormément de ces moteurs de scrapping... se font passer pour des internautes pour ne pas être bloqués. Parce que si on arrive sur un site en disant « Salut, je suis un moteur d'IA et je vais faire n'importe quoi », on peut deviner que le serveur va le bloquer assez rapidement. Donc, ils se font passer pour des utilisateurs classiques. Et du coup, mesurer même le nombre de ces robots, ça peut être compliqué. On a une petite idée, surtout quand on voit des grosses différences de trafic d'un jour à l'autre ou qu'on voit... un utilisateur qui télécharge l'intégralité des pages.
Je crois qu'il y a des origines aussi, quand on voit que c'est un pays du Brésil qui vient indexer tout un site web en France et qu'il le fait plusieurs fois, on commence à se douter qu'il y a un problème, par exemple.
On peut se douter.
Ouais. Florence, je crois que tu voulais...
Oui, l'autre point aussi, c'est que ça a toujours existé, mais maintenant, avec l'IA, c'est encore plus facile de créer des robots pour aller scraper Internet. Et c'est là aussi, c'est aussi pour ça qu'il y en a de plus en plus, en fait.
On va faire une pause. Je vais juste peut-être, parce que en fait, on est arrivé assez vite sur ce sujet, enfin presque tout d'un coup. En fait, il y a un vrai lien qui est avec le sujet de départ de ce contexte de tension géopolitique. C'est qu'on a une situation qui est extrêmement compliquée. Il y a des outils comme le RGPD qui pourraient essayer de limiter un peu les effets de ces effets de consommation, ces effets de tension sur les réseaux, etc. Mais on voit à quel point le fait qu'il y ait une tension entre deux des gros piliers, on va dire, enfin voilà, que ce soit l'Union européenne et les États-Unis, qui du coup sont pas du tout capables de travailler en intelligence sur ces sujets-là, on peut voir quand même et se dire que ça a un impact assez considérable sur nos capacités collective à essayer d'intégrer et de gérer ces situations. Quoi.
Et la Chine, parce que...
Ça fait partie, et en plus, c'est même des éléments qui font partie de la guerre économique, parce que c'est le terme consacré.
Ouais. Ouais, mais il ne faut pas oublier la Chine, parce que nous, on se retrouve géographiquement et on se retrouve vraiment pris en sandwich entre les deux. Donc, s'il y a une troisième voie à construire, c'est ici qu'il faut le faire. Quoi.
Je vous propose de faire une pause musicale. Après, on va continuer nos échanges. Il y a encore beaucoup à dire et pas énormément de temps, mais on va y arriver. Donc, nous allons écouter Revel par Shelby Mary. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Nous venons d'écouter Revel par Shelby Mary, disponible sous licence libre Creative Commons Partage dans les mêmes conditions. CC BY SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Je suis Étienne Gonu de l'April et nous discutons avec Florence Chabanois, Benjamin Bellamy et Écharpe des actualités du logiciel libre et des libertés informatiques dans Au Café Libre. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors avant la pause, on est en train de parler de la, on va dire des tensions géopolitiques entre États-Unis sous la présidence de Donald Trump et puis l'Union européenne, et puis des impacts sur les sujets, on va dire, numériques dans le sens large. On a parlé notamment du RGPD, enfin de ces grands outils, ces grandes législations européennes, hein, qui ont un point important, je pense, dans les tensions, dans cette guerre économique, parce que le terme consacré. Je vais peut-être mentionner, parce que Florence, tu as parlé d'une amende récente. Juste pour mentionner, ce qu'elle est intéressante, cette amende, c'est la première qui avait été prise sur la base du Digital Service Act, qui est un grand règlement européen sur qui sert à lutter contre les contenus illicites sur les plateformes, et qui a été voté avec le Digital Market Act, qui est la plus une réglementation sur les plateformes qui date de qui est en vigueur depuis février 2024. Donc, c'est une réglementation très récente, mais assez ambitieuse dans leur portée, et qui vont aussi avoir aussi un point important dans la diplomatie, dans la géopolitique actuelle. Et donc, c'est sur cette base-là que Apple s'est vu infliger 500 millions d'euros pour les clauses abusives dans sa boutique, dans ses boutiques applicatives, et puis Meta qui devait payer 200 millions d'euros pour enfreindre des règles concernant l'usage des données personnelles. Alors, des gros montants dans l'absolu, mais en fait assez faibles par rapport au chiffre d'affaires de ces entreprises, notamment si on considère le niveau d'évitement fiscal qu'elles opèrent. À moins que vous ayez envie de dire un mot sur cette amende en particulier, il y avait un autre sujet qui est intéressant, de l'impact un petit peu de ces situations, qui concerne la cybersécurité. Un article que Florence, tu as partagé. Alors, tu vas pouvoir nous en donner les détails. CVE, donc apparemment un acteur important de la cybersécurité, a failli perdre son financement, et cela aurait pu avoir des impacts importants en termes de cybersécurité globale.
Oui, complètement. Du coup, le CVE, c'est pas quelque chose de très connu auprès du grand public, mais c'est quelque chose qui touche tout le monde parce que elle recense toutes les vulnérabilités de sécurité en termes de sécurité de système informatique, pardon. Et du coup, c'est ce qui fait référence et qui est normatif, dans le sens où quand le CVE dit qu'il y a telle faille de sécurité dans tel logiciel open source ou des choses comme ça, bah toutes les entreprises, enfin les systèmes informatiques des entreprises se fie à cet organisme pour mettre à jour ou pas le patch pour faire en sorte qu'on n'ait pas de soucis et qu'on ne soit pas vulnérable. Et ce qu'il y a, c'est que le CVE est financé essentiellement par, ou exclusivement, je ne sais pas, mais en tout cas de façon assez importante, par l'Agence de cybersécurité américaine, le CISA, qui jusqu'au dernier moment, du coup, n'a pas renouvelé son contrat. Enfin, a fini par le faire, mais vraiment genre à J-1 ou J-2. Et du coup, la MITRE, qui est l'organisation qui gère la CVE, a failli se retrouver sans sous. Et donc là, c'est super grave parce que c'est quelque chose de communautaire qui fait que si on n'a pas ce type de référence, bah honnêtement, c'est la jungle. On parle plus le même langage, on n'a pas d'alerte commune. Et un des premiers effets déjà de l'administration américaine par rapport à ça, au fait que finalement, bah du coup, la bonne nouvelle, c'est que bah du coup, une fondation a été créée en urgence pour pallier à ça et préparer l'avenir, à voir si ça va être suffisant ou pas pour pouvoir recueillir d'autres fonds. Et en même temps, on a déjà des impacts de l'administration dans la mesure où il y a presque 500 employés du MITRE, donc l'ONG qui gère ça, qui ont été licenciés suite à l'arrêt des contrats par la DOGE, donc qui correspondait à 28 millions de dollars de budget.
La DOGE qui était je sais pas si une agence gouvernementale, en tout cas c'était la sorte de mission gouvernementale conduite par Elon Musk, qui était pour faire des coupes budgétaires drastiques et complètement aléatoires, presque on avait l'impression, enfin, en tout cas très importantes, et qui ont eu des impacts très sévères sur un niveau international. Quoi, pour
tout ce qui lui paraît pas important. Enfin, de toute façon, sa mission, c'est de réduire les coûts, donc si on vire tout le monde, ça marche. Ouais. Pour le coup. Après, c'est à lui d'arbitrer sur qu'est-ce qui a de l'intérêt ou pas. Et pour lui, ça. Alors, comme quoi, je suis très étonnée. Enfin, il y comprend vraiment rien, mais ça, c'est mon avis, parce que pour un mec qui travaille dans la tech, de supprimer ça. Sauf si ça. En fait, c'est quand même intelligent, parce que du coup, ça met un peu plus en péril les entreprises qui n'ont pas les moyens, en fait, de se protéger par rapport à ces
gens. Par rapport à quel objectif? Et son objectif n'est pas forcément celui de l'intérêt général.
Oui, effectivement. Voilà. Ça dépend comment on pense.
Et j'ai vu, alors, c'est une aparté, mais c'était un article intéressant, alors qui n'était pas réjouissant en tant que tel, mais qui comparait ce qu'avait fait le DOGE, parce qu'ils allaient dans les administrations, ils pillaient les données, ils faisaient un peu n'importe quoi. et c'était comparé à une forme de d'attaque informatique interne, la pire de l'histoire, quoi. Parce que voilà, ils ont ouvert toutes les portes, ils ont tout saccagé, ils ont pas du tout respecté les règles très strictes pour de bonnes raisons qui s'appliquent à la cybersécurité que je ne connais pas du tout, mais bon, et avec des impacts, ouais, enfin c'est assez affligeant et consternant.
Ouais. Oui, mais en tout cas, ce serait dramatique si, si voilà, la CB n'a plus les moyens. Ça veut dire que chaque pays gère son propre référentiel. Il doit se retrouver tout seul, en fait. C'est vraiment renoncer à... On parlait d'utilité publique tout à l'heure. Ça rentre complètement dans ce type de mission.
Alors moi, j'aime bien partir en diagonale. Et j'aurais tendance à me poser la question aussi, c'est que le CVE, ça donne peut-être trop de pouvoir en termes d'organisation au système américain. La NSA et les différentes organisations de sécurité et d'intelligence américaines, ils aiment bien héberger ce genre d'organisme en général. Ils aiment bien avoir les bugs et les remontées de failles en premier. Ils sont très contents, ils sont très friands d'avoir ce genre d'outils, parce qu'en plus, quand on remonte une faille plus ou moins importante, il y a généralement une période de blocus où on ne la révèle pas à tout le monde, parce qu'on veut d'abord répandre un petit peu l'antivirus, répandre les défenses avant que l'attaque soit connue de tous. Or, la NSA, typiquement, donc National Security Agency, qui sont des employeurs de mathématiciens et d'informaticiens par grand nombre, eux, ils ont en théorie accès à ces failles en premier, et on peut supposer qu'ils peuvent en faire un usage pour différentes raisons. Alors quand on était leurs alliés objectifs ou leurs vassaux à voir, peut-être que dans une certaine mesure ça nous arrangeait, mais aujourd'hui effectivement on se rend compte que ça peut nous retomber dessus. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer avec l'Ukraine, qu'est-ce qui peut se passer avec l'armée française. En théorie, ils ont accès à toutes les failles avant que nous on les connaisse.
Bonne remarque.
Je vous propose de passer au sujet suivant. Alors, en réalité, on ne change pas tant de sujets que ça, parce qu'il va toujours être question des enjeux de cybersécurité avec ce qui a été baptisé l'affaire du SignalGate. Alors, elle est à la fois drôle et en fait inquiétante, cette affaire. Alors, Signal, c'est un logiciel libre de messagerie sécurisé. Sécurisé parce qu'il chiffre les conversations de bout en bout, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez le lire sur votre téléphone, la communication va voyager à travers le réseau, mais ne pourra pas être lu parce qu'il est sous cadenas, et quand ça va arriver chez votre interlocuteur ou interlocutrice, cette personne sera en mesure de déchiffrer, de lire ce message. Donc ça, c'est une pratique de sécurité très importante. Et Gate, parce que aux États-Unis, quand il y a un problème, on met Gate derrière. On peut penser bien sûr au Watergate. Alors en résumé, il y a un journaliste de The Atlantic, qui est un journal américain, Jeffrey Goldberg, qui a été invité par erreur sur un groupe Signal, donc un groupe de conversation où des membres du gouvernement américain échangeaient, notamment le secrétaire de la défense Pete Hegseth. Sans que cette présence d'un journaliste ou d'une personne qu'il ne connaissait pas semble déranger, ils ont partagé des informations détaillées sur une opération en cours, une opération de bombardement au Yémen. Donc ça a sorti, parce que ce journaliste, il a fait son travail de journaliste, il s'est pas privé de partager cette information, et ça a fait pas mal de bruit. Voilà. Comment vous réagissez quand vous entendez ce genre de...
Là, c'est d'un amateurisme abouti, mais qui va très loin, sachant qu'en plus, on a découvert qu'il avait d'autres flux Signal, où il se vantait auprès de sa famille de ce qu'il était en train de faire. Il était en train de montrer un petit peu en utilisant les outils numériques.
Le ministre de la Défense.
Ouais, voilà, c'est l'équivalent. Et effectivement, le gars, il comprend rien à rien et il connaît pas les bases des pratiques de sécurité. Normalement, ces genres de discussions doivent même pas se faire sur des systèmes connectés à Internet. Ça doit se faire sur des lignes spécialisées dans des circuits spécialisés, à part, c'est air-gapped, on dit, c'est donc il y a de l'air entre Internet et ces genres de réseaux sécurisés-là, et là que n'importe qui puisse se connecter avec son téléphone portable, y compris, il y avait un des intervenants qui était basé en Russie au moment où il lisait le flux, c'est choquant, sans oublier que la Russie, on suppose qu'ils ont des moyens d'attaquer Signal, qui n'est pas parfait non plus, qui a des difficultés à différents points de son cheminement, notamment les serveurs ne sont pas tout à fait libres. Il y a des problématiques, c'est pour ça qu'on n'utilise pas beaucoup Signal à l'April, on préfère d'autres protocoles. Et donc là, les gars, ils ont été vraiment très mauvais. Et ils ont de la chance que ça ne se révèle que sous cette forme-là, c'est-à-dire un petit scandale dans le milieu médiatique et puis quelque chose qui montre leurs mauvaises pratiques, parce que ça pourrait vraiment déboucher sur des morts ou des graves problèmes vraiment en profondeur pour les États-Unis.
Oui, c'est pas juste comique, c'est que ça peut avoir des impacts. Par exemple, il y avait, bon, après c'est des militaires, ça fait partie, mais voilà, il y a des gens, et c'est ce qui a fait du bruit aux États-Unis, c'est qu'on ne plaisante pas avec la vie des militaires. Et donc finalement, ces personnes dans les avions qui étaient en train de bombarder, alors bon, voilà. Mais
c'est compliqué.
Oui, ils ont été mis en danger par cet amateurisme-là, et ça, aux États-Unis, on tend à...
Ils auraient pu, parce que le journaliste a quand même attendu la fin des opérations avant de le révéler. Déjà... Parce que je pense qu'au départ, il ne croyait même pas ce qu'il était en train de lire.
Oui, il a vérifié.
Pour,
hein.
Pour avoir confirmation qu'il était effectif, que ce qui se racontait dans cette boucle, dans ce groupe Signal, était réel. Et puis, je pense, pour ne pas mettre en danger effectivement la vie des soldats américains. Et puis, probablement aussi pour éviter des poursuites judiciaires derrière qui auraient probablement été un peu violente s'il avait révélé ça avant.
Sachant que les responsables américains, ils ont dit « Mais non, ce n'était pas sous le secret défense, il n'y avait pas de problème, on pouvait dire ce qu'on voulait sur Internet. » Et le journaliste, quand il a entendu ça, il avait attendu, il n'avait pas encore révélé tout le contenu. Et c'est quand les responsables ont dit que ce n'était pas couvert par le secret défense, que là, il a dit « Ah bah d'accord, bah dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, je peux vous le révéler à tous. » Et là, on s'est rendu compte que bien sûr, ça aurait dû être couvert par le secret défense, c'était des plans d'attaque avec des horaires précis, des zones précises. C'était complètement dans l'optique militaire. Donc là, ils se sont plantés sur toute la ligne, on peut le dire.
Je pense que vas-y, le traitement est quand même assez minable, c'est que la plupart des failles de sécurité, c'est ça, hein, c'est des erreurs humaines en réalité. Mais c'est plus la défense, le Pentagone qui envoie un mémo en disant que c'est lié à un défaut de sécurité de signal. Ça, c'est quand même assez petit. ça fait très cours de récréation, quoi, pour le coup.
Ouais, sachant qu'en plus, il utilise son téléphone personnel. Hein,
complètement, ça, on ne l'a pas dit, mais ouais.
C'est... Parce que je pense que c'est idiocratie. On est vraiment dans l'idiocratie là.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des gens qui se demandent. Signal, c'est un très bon outil. On vous invite, si vous utilisez WhatsApp par exemple, qui est la solution propriétaire, plutôt d'utiliser. Alors il y a d'autres protocoles, XMPP, etc. Mais c'est vrai que Signal a une facilité d'utilisation. Donc c'est une très bonne alternative. On va parler d'alternatives juste après. Mais c'est très bien pour chiffrer, pour les communications entre vous, pour organiser un repas familial, etc. Pour organiser des opérations militaires classées défense, non. Voilà, il y a des questions aussi de bons outils ne sont pas bons pour tout, mais voilà, si vous voulez hésiter à utiliser Signal, il ne faut pas que vous disiez en fait c'est pas assez sécurisé. C'est tout à fait sécurisé pour la plupart des usages, pas pour cela.
Ouais, et comme on l'a dit tout à l'heure, la problématique que nous on peut voir dans Signal, parce qu'on est un peu des jusque-boutistes, hein, on peut se l'avouer, c'est que le serveur, c'est le serveur de Signal. On ne peut pas s'installer son propre serveur Signal pour être complètement souverain et s'auto-héberger. On a le code source de l'application, si on veut, on peut la recompiler. Ce que personne ne fait, ce qui est aussi un problème, hein, c'est que souvent, on va sur le Play Store de son fabricant de téléphone et puis on télécharge l'application sans vérifier ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, on pourrait le recompiler et se l'installer si on le voulait. Par contre, le serveur, même s'il n'est pas censé voir les messages puisque c'est chiffré de bout en bout, on ne le maîtrise pas. Et puis, ça pose des problèmes économiques. C'est que ces serveurs, il faut les payer. Et c'est la société Signal qui édite le logiciel qui paye ces serveurs. Et du coup, elle fait des appels aux dons réguliers parce qu'elle n'a pas de business model. Elle ne fait pas comme WhatsApp et Facebook et Meta à regarder ce qu'on fait, à monétiser nos données et nos profils. Donc, le modèle économique aussi, il se cherche encore.
Alors c'est un dernier mot.
On peut supposer qu'ils ont des métadonnées, c'est-à-dire qu'ils savent qui discute avec qui, même s'ils connaissent pas le fond du message. C'est comme les enveloppes à la poste, ils peuvent peut-être déduire qui a envoyé à qui, ce qui a déjà de la valeur en soi.
Énormément.
Avançons. Alors il reste très peu de temps. Il y avait effectivement, alors en ce moment, il y a beaucoup d'articles et on se comprend pourquoi qui propose tout un tas d'alternatives aux outils des GAFAM. Alors, par exemple, un article d'Anumérique, des outils libres ou pas libres. Et bien sûr, nous vous invitons à utiliser, pour tout un tas de raisons qu'on a déjà évoquées ici, de préférer un outil libre. Alors, essayez de répondre rapidement, je vous fais confiance. Si vous avez un outil ou une alternative libre que vous recommandez généralement autour de vous, que vous pensez, voilà, ça. Si vous n'en avez pas en tête, ce n'est pas grave, on avance. Et est-ce que vous trouvez que c'est un moment propice mais en fait, on a déjà un petit peu parlé de dans ce chaos actuel, parfois on peut faire émerger des choses. Est-ce que c'est un moment propice pour inciter les gens à migrer vers des outils libres? Voilà, une minute chacun. C'est défi ce que je vous lance.
Vas-y, je t'en prie.
D'accord. Moi, Firefox, depuis 20 ans, je pense. c'est mon outil préféré. Après, il y a... Moi, ça m'intéresse...
Firefox, c'est un navigateur web, pardon. Voilà.
Un navigateur, oui. Par rapport à ce que tu disais, Emmanuel, sur l'alternative à WhatsApp, ça m'intéresse parce que moi, j'arrive à faire bouger personne. Et on a parlé de Signal, mais c'est américain. Et il y a d'autres alternatives, mais il faut vraiment qu'en termes d'UI, ça passe. Donc là, c'est plus une question qu'un conseil.
Ah, UI, c'est interface utilisateur.
Oui. Et le logiciel, le plugin Firefox, ah mon Dieu, l'extension Firefox que j'utilise, c'est GoEuropean ou le site europeanalternatives.eu ou Framasoft pour chercher des alternatives aux outils américains ou non libres que j'utilise jusqu'ici.
Eh ben, je te demanderai la référence qu'on partagera sur le site, sur la page de l'émission pour les personnes que ça intéresse. Benjamin, un mot où on avance et on peut avancer pour parler du cas Ubisoft en une minute aussi.
Alors moi, je voulais juste inciter tout le monde à utiliser Ubuntu.
Très bien.
Parce que c'est génial et c'est plus facile à utiliser que macOS et Windows.
Voilà, Ubuntu ou Debian, mais en tout cas, utiliser les systèmes d'exploitation libres qui maintenant sont tout à fait accessibles. Effectivement, les interfaces graphiques ont beaucoup évolué.
Qui sont plus accessibles. Il faut arrêter de dire que c'est un truc de geek ou de barbu. C'est plus accessible, c'est plus facile, c'est moins cher et ça permet de faire fonctionner des ordinateurs plus vieux.
Très bon. Voilà, tu as tout à fait raison. Ah, voilà, la sonnette fonctionne. Donc, on parlait du RGPD, Règlement Général de la Protection des Données, mais on va rester en France cette fois-ci, parce que c'est une société, bon, alors certes internationale, mais c'est une société française d'édition du jeu vidéo, Ubisoft, qui est dans le viseur de l'association NIOIB, qui est une très importante association de protection des données personnelles et de la vie privée. Et donc, ils sont dans son viseur pour son appétit vorace des données des utilisateurs et des utilisatrices.
Alors, NIOIB, ça veut dire None of Your Business.
Voilà, ce n'est pas vos affaires.
Ce que ça veut dire, c'est pas vos affaires. Et ils reprochent à Ubisoft d'obliger les utilisateurs à se créer un compte en ligne, même si le jeu ne se joue pas en ligne. Donc, même si on joue tout seul chez soi, on est obligé de se créer un compte. Et a priori, ils récupèrent pas mal de données personnelles pour des motifs probablement inavouables. Et ça, c'est un vrai problème. Et moi, je suis plutôt content que None of Your Business s'empare de ce sujet-là, parce que le nombre de fois où on veut utiliser un jeu ou autre chose et qu'on est obligé de se créer un compte, on est obligé d'être connecté à Internet, que ce soit pour des questions écologiques, pour des questions de coût, pour des questions d'UI, d'interface utilisateur, moi, ça me rend dingue. Pas plus tard que cette semaine, j'ai reçu un mail de Google qui me disait que mon thermostat Nest, qui date de 2014, peut-être même plus, n'est plus supporté et que, y a plein de fonctionnalités qui vont sauter.
Obsolescence. Et là, elle est vraiment pratique. Hein. C'est-à-dire que l'entreprise qui gère ton produit peut mettre la clé sous la porte ou décider que le produit ne leur plaît plus, pour une raison que ce soit Y, et tu te retrouves avec un bout de métal sur les bras qui ne sert plus à rien.
Et l'appareil, il fonctionne encore très très bien, hein. Il n'est pas usé, il n'est pas cassé, il est tout à fait fonctionnel. Donc effectivement, ça fait plus de 10 ans que je m'en sers. Et alors, il va encore fonctionner, c'est-à-dire que je vais pouvoir régler la température, mais toutes les fonctionnalités, par exemple, de détection de présence qui fait que si je m'absente plus de 24 heures, il coupe le chauffage, là, ça ne marchera plus.
Voilà, on a fait un pas de côté, mais qui est intéressant et qui est bon à rappeler.
Pas tant de côté de ça, parce que c'est vraiment, est-ce qu'on est obligé de créer un compte pour accéder à un service?
Et pour le coup, le jeu que tu as peut-être acheté à une époque et pour lequel tu as créé ton compte, si l'entreprise met la clé sous la porte, ce jeu ne sera plus accessible en théorie.
Nintendo a fait ça beaucoup. Moi, j'ai une Wii qui est assez vieille et il y a des jeux, on ne peut plus y jouer alors que j'ai le CD. Le jeu devrait être jouable, il n'y a aucune raison qu'il ne le soit plus, mais il ne l'est plus parce qu'ils ont coupé les serveurs.
C'est une stratégie de fin du monde comme une autre, après tout.
Non, après, voilà, nous, à l'April, on lutte depuis très longtemps contre ce qu'on appelle les DRM, hein, c'est des mesures de restriction d'usage qui vous empêchent d'utiliser vos propres produits comme bon vous semble, en fait, hein, vous avez acheté, mais en fait, ce n'est pas vraiment le vôtre. Donc, on voit là, lutte pour le respect des données personnelles, lutte contre les DRM et les restrictions d'usage injustes, même combat un petit peu, il y a une forme d'intersection.
Que tout est lié parce que si on a le code source, si le logiciel est libre, il ne peut pas y avoir d'attaque au RGPD. Ou en tout cas, c'est visible et puis on peut choisir de faire autrement du coup.
Et là, on arrive vraiment à la fin. Là, je vois, il est 16h47. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais si vous avez suivi notre action sur les logiciels de caisse, il y a eu une mise à jour de la doctrine fiscale. L'April s'était impliqué là-dedans. Sachez qu'il y a un délai d'application jusqu'au 1er mars pour se faire certifier. Et à partir du 1er septembre, il faudra montrer des démarches de certification.
1er mars de quelle année ?
2026, tu vois, tout à fait. Merci de me le faire préciser. Voilà, donc c'est un peu cryptique si vous n'avez pas suivi le sujet. Si le sujet vous intéresse, tout sera référencé sur la page de l'émission. J'ai pas le temps de rentrer dans plus de détails que ça. Florence, Echard, Benjamin, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment au Café Libre avec moi. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et un bel été, parce que là, le temps s'y prête. En tout cas, il fait beau. Nous allons à présent écouter, faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons une nouvelle pituite de Luc. Avant ça, nous allons écouter Crème par À la Claire Ensemble. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Yo, yo, j'en prends tout, prends tout, roule nos poutres. C'est légal au state, c'est légal au bout. Fuck, fuck, toutes tes pilules, fuck ta peau, fuck tes bidules, fuck tes money, c'est pas poli. Je dis, moi, j'suis high, des nitrelles, les roll-up, le spliff. J'en prends ta longue bitch, c'est ma bitch, j'réponds plus pute, c'est mon fourni sur le grid. Trop occupé dans le vide, à m'inventer des pics, pellegrino dans le coude. Propre lit dans le bide. Mon char est fait en camping. Mon téléphone en toupix. Comme ça que je rentrais dans l'équipe. En gros débile, foupix. Check mes yeux sont fucked. Sont perdus dans l'ensemble. Des conversations dans le trafic. Je t'écoutais raconter l'Afrique.
Everything that is green is a cream that's healing on your mind.
Yo, tu sors jamais du moule, ça pousse sur le patio doule. C'est pour ça que c'est pas cool, à faire pousser ça l'art dans aucune doule. Sylvain Raper, Doug Dow chase le paper. Le couche pousse l'invalide là-bas, on exporte ça jusqu'au Denver. Remplir un primo, j'trouve ça moins deep qu'un alcoolique. Qui compte sa vie à deux plus de taf, à cinq de même. Ask about it, si tu me croises en blazer. C'est que j'trouve la vie plaisante, des journées où j'me sens baby. Tu veux jamais me voir, tu es ton baby.
Nous venons d'écouter un extrait de Crème par À la Claire Ensemble que la régie a baissé un peu en avance pour qu'on puisse finir tranquillement l'émission. En tout cas, ce morceau est disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. C'est Sebayessa.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer à notre dernier sujet. La pituite de Luc est une chronique rafraîchissante au bon goût exemplaire qui éveille l'esprit et développe la libido. Aujourd'hui, à vous de jouer.
Nous vivons une période troublée. Je sais que je le répète tous les mois, mais ça s'amplifie. Rendez-vous compte, il semblerait que Linux sur les PC est réellement le vent en poupe. En octobre 2024, StatCounter annonçait une part de marché de 4,5% pour l'OS au manchot, alors qu'elle n'était que de 4% en juin. Autour de moi, les gens étaient dubitatifs. On ne savait pas comment c'était compté, et le recul généralisé du PC dans les usages informatiques jouait sans doute. Mais là, il s'est passé un truc. Le YouTuber PewDiePie sort une vidéo où il annonce abandonner Windows au profit Linux. La vidéo dure une vingtaine de minutes, et elle est bien foutue. On y retrouve nombre d'arguments bien connus sur le choix d'un OS libre face à Windows et il invite son public à l'imiter. PewDiePie n'est pas une petite pointure. En 2018, il mobilisait sa fanbase ultra motivée pour savoir lequel de lui ou d'une chaîne indienne aurait la plus grosse audience. Il se battait pour la première place. Il cumule aujourd'hui 110 millions d'abonnés. Sa vidéo pèse donc lourd, mais pas tant que ça, car elle n'a été vue que 3,4 millions de fois pour l'instant. Sa carrière a en effet connu un coup d'arrêt vers 2020. Et il a l'air de redémarrer doucement. 3,4 3,4 millions, ça reste un poil plus qu'une de mes chroniques, hein, je dois l'admettre. Plutôt un bon gars, ce PewDiePie, du coup. Assurément, il a dérapé quelques fois avec des insultes racistes et antisémites, mais il n'a fait que déraper. Selon les nouveaux standards de notre époque, c'est le signe d'un progressisme notable. Son public est réputé être composé de gens à la fois masculinistes, incels et fascistes. Deux terroristes, dont celui qui a perpétré le massacre de Christchurch, l'ont relayé avant de passer à l'acte. J'espère, pour le salut de son âme, qu'il ne mérite pas le public qu'il a. Mais revenons-en à son annonce. Outre la merdification de l'informatique privatrice et le plaisir d'être réellement libre sur sa machine, il avait une condition nécessaire pour basculer vers Linux. Les jeux. Steam parvient désormais à en faire tourner beaucoup. L'été dernier, PC Games Hardware benchmarkait les deux OS et donnait Linux vainqueur. Bien entendu, tout cela signifie beaucoup de logiciels propriétaires et de DRM dans un environnement libre, mais la nouvelle reste surprenante. Je n'attendais pas vraiment qu'un mec dans sa position bascule, et en grande partie pour de bonnes raisons. On a coutume de dire que le fric et le cul font tourner le monde, mais on dirait bien que le jeu un peu aussi. Et en matière de jeu, ça bouge également du côté de Donjons et Dragons. La vie n'est pas rose pour Hasbro, qui ne parvient pas à transformer la vénérable usine à gaz qu'est Donj en machine à cash. Le film sorti au cinéma a fait un flop en dépit de sa qualité. Le projet de logiciel de table virtuelle Sigil s'est pris le mur et a été abandonné. Et la communauté d'auteurs de JDR qui gravite depuis 20 ans autour du noyau commun des règles n'a toujours pas digéré la tentative d'asservissement tentée en 2023 par l'éditeur. Il avait décidé de retourner sa licence maison, l'OGL, pour faire cracher tout le monde au bassinet. Afin de leur redonner confiance, l'éditeur publie ce fameux noyau de règles sous licence Creative Commons by. On perd la clause copyleft de l'OGL, mais au moins, ils ne peuvent plus changer arbitrairement les clauses de la licence. Cela me touche un peu à vrai dire. Je vais fêter cet été mes 42 ans de jeu de rôle. Cela me rappelle comment le jeu de rôle a été un incroyable espace de liberté pendant mon adolescence, et même plus tard. À la fois terrain d'expression, de partage et d'aventure, une expérience qui n'appartenait qu'aux joueurs, au fond de la cave de la maison des parents de l'un d'entre nous, du soir jusqu'à l'aube. Notre avenir prend la forme d'une dictature numérique où tout doit être marchandise. La lanceuse d'alerte Sarah Wynne a par exemple récemment expliqué que les adolescentes mal dans leur peau sont considérées chez Meta comme le segment de la population le plus profitable. Le vieux con que je suis souhaite aux adolescents de trouver dans le jeu, dans l'informatique ou n'importe où ailleurs, des espaces de liberté et d'autonomie aussi fabuleux que celui que j'ai pu avoir. Ils en auront bien plus besoin que moi, à leur âge.
De retour en direct sur Libre à vous, c'était la pituite de Luc, à vous de jouer. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Dans les annonces, alors beaucoup d'événements en mai, commencer par le premier samedi du Libre, samedi 3 mai de 14h à 18h au Carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris 19e. Venez aider ou vous faire aider à installer et paramétrer des logiciels libres et toute distribution GNU Linux ou Android avec les personnes, avec les nombreuses associations présentes. Une soirée de contribution au Libre aura lieu jeudi 8 mai, à la FPH, Fondation pour le Progrès Humain, à Paris, dans le 11e arrondissement. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans ses locaux à Paris, au 22 rue Bernard Dimet, dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe, ouverte au public avec apéro participatif à la clé. Occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée ouverte, radio ouverte, aura lieu le vendredi 2 mai. Nous vous donnons rendez-vous vendredi 30 mai au local de l'April dans le 14e arrondissement de Paris pour une rencontre April, l'occasion d'échanger entre membres et soutiens de l'April, mais aussi d'accueillir de nouvelles personnes intéressées par nos sujets et souhaitant en savoir plus sur nos actions. L'April sera présente avec un stand à la place des associations de Centrale Supélec, événement organisé par l'association étudiante Forum Ingénieurs Responsables. Cette journée aura lieu mardi 13 mai de 16h30 à 19h30 à Paris-Saclay, en Essonne. L'April sera présente également avec un stand et une conférence au Rencontre professionnelle du logiciel libre et RPLL, jeudi 15 mai 2025 à Lyon. L'April sera toujours présente cette fois-ci au FAIR Festival, jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 mai 2025 à Toulouse. Et enfin, l'April sera présente aux Journées du logiciel libre et JDLL avec stand et conférence, samedi 24 et dimanche 25 mai 2025 à Lyon. Et je vous invite, comme d'habitude, à consulter le site de l'Agenda du Libre, l'agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous, ainsi que les associations qui les font vivre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Laurent et Laurette Costi, Louison, Florence Chabanois, Benjamin Bellamy, Écharpe et Luc. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Julie Chaumard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts Samuel Aubert, Elodie Daniel Gérondon, Languin, Julien Haussmann, tous et toutes bénévoles à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet. Quentin Gibault, Théocrite, Tunui, bénévole à l'April, et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org/245 toutes les références utiles de l'émission de ce jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi les points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Pour réagir à l'un des sujets de l'émission, partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46. Je répète, le 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 6 mai à 15h30. Notre sujet principal portera sur le logiciel d'Unitaire et la monnaie libre June, et il sera notamment justement animé par Écharpe, encore présent avec moi en studio. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 6 mai et d'ici là, portez-vous bien.
Cause commune, retour sur 93.1 à 21h et retrouvez nos programmes sur cause-commune.fr.